VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 19h à Kigali, bienvenue à notre journal. Crise au Burundi, le président burundais Pierre Nkurunziza n'est pas du tout content de la décision de l'Union africaine d'envoyer des troupes dans son pays. Ce n'est pas acceptable, estime le président Nkurunziza, qui considère cette initiative comme un acte de guerre. Bagasikoura.
Tout le monde doit respecter les frontières du Burundi. Si les troupes de l'UA viennent, elles auront attaqué le Burundi et chaque Burundais devra se lever pour les combattre. Le pays sera attaqué et nous les combattrons, a déclaré Pierre Nkurunziza lors d'une conférence de presse également ouverte au public à Gitega dans le centre du pays. L'UA a annoncé mi-décembre qu'elle allait déployer une mission africaine de prévention et de protection au Burundi, forte de 5000 hommes, pour tenter d'arrêter le cycle des violences. Le gouvernement burundais en avait déjà rejeté le principe et prévenu que si l'UA devait mener à bien ce déploiement sans son aval, cette mission serait considérée comme une force d'invasion et d'occupation. Mais les propos de Nkurunziza, qui s'exprimait en Kirundi, la langue nationale, sont les plus virulents prononcés jusque-là par le pouvoir burundais à l'encontre de cette initiative. Les violences ont déjà fait plusieurs centaines de morts et poussé plus de 200 000 personnes à quitter le Burundi, selon les Nations Unies.
Les élections en RCA maintenant, les Centrafricains votent depuis ce matin aux présidentielles et législatives, étape décisive du processus de transition censé mettre fin à 3 ans de violences intercommunautaires qui ont entraîné le pays dans une crise sans précédent. Il y a eu des difficultés au début du vote et dans certains bureaux, le scrutin continuera au-delà du temps officiellement permis. Des détails sur ces problèmes avec notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso, au micro de Jean-Roger Bion.
Vous l'avez dit, avec plusieurs difficultés, notamment au PK5, à l'école Koudoukou. Souvenez-vous, cette école avait été le théâtre d'échanges de tirs pendant le référendum. Eh bien, ce matin, et c'était des bureaux qui avaient été annulés, par exemple les bureaux 9 et 10, ou encore il y avait des problèmes avec la lettre M. Tous ceux qui étaient sur la liste d'électeurs et qui avaient leur nom de famille commençant par M n'ont pas pu se retrouver pour pouvoir voter. Autre problème, il manquait des listes d'électeurs et certains ont même été renvoyés pour aller voter dans le 8e arrondissement. Entendez par là qu'on invitait des musulmans à aller voter dans des quartiers qui sont encore à grande majorité sous le contrôle des anti-Balaka. Donc ça a créé des tensions à tel point que le général de la force Balakeïta, le général de la MINUSCA, a dû intervenir.
Alors, difficulté donc à Bangui. Que sait-on de la situation dans le reste du pays, Tatiana ?
Alors, dans le reste du pays, les choses semblent bien se passer, notamment dans l'Est. On a encore très peu de précisions exactement, mais dans l'ensemble, dans l'Est, ça se passe bien. Dans le Nord, à Ndélé, notamment, les opérations ont pu commencer, mais évidemment avec beaucoup de retard. Un retard qui est lié principalement à l'acheminement du matériel. Dans le sud-est du pays, les retours de ce matin étaient encore positifs.
Notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso. L'autorité nationale des élections, la ANEDI, a tenu compte des problèmes affectant le vote et tenté de les résoudre. Son président Julius Ngwadebaba exhorte les électeurs et les candidats à rester sereins. Que souhaite l'électorat? Tatiana Mosso a tendu son micro à un électeur à Bangui.
Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est la sécurité et puis la paix. Lorsqu'il y a sécurité, il y a la paix et puis le pays va dans son sens normal.
Un électeur à Bangui. La mission de l'ONU et ses casques bleus sont bien sûr très impliqués dans ces élections. Le général Balakeïta, commandant de la force onusienne, a dû même mettre ce matin la main à la pâte au PK5 de Bangui pour débloquer la situation et permettre au vote de commencer. Le général Balakeïta au micro de Tatiana Mosso.
Pour le moment, ça va, bon, à part quelques petits problèmes administratifs là, qu'on est en train de régler rapidement, mais sinon, dans l'ensemble, je pense que l'ambiance est bon enfant. Bon, et puis, on espère que tout va se passer correctement. Hein, ça ne va pas être comme la fois passée. Nous, on a appris, la population a appris, les saboteurs aussi ont appris. Donc, nous tous, on a appris, et puis aujourd'hui, tout va se passer bien, Inch'Allah. On espère bien. Bon, mais il y a toujours quelques petits problèmes administratifs qu'il faut régler très rapidement. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis passé, pour les aider justement à faire avec le commissaire, pour faire les ajustements qu'il faut, qui est nécessaire.
Le général Balakeïta, commandant de la force onusienne en RCA.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
On reste en Afrique centrale. En RDC, l'Église catholique est inquiète d'une possible impasse autour du processus électoral. Elle a donc entamé des consultations pour faciliter le dialogue entre les acteurs politiques. Plus de détails avec Eddie Isango.
Une délégation des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a rencontré Aubin Minako, les présidents de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la coalition des partis qui soutiennent les présidents Joseph Kabila. Ils ont par la suite discuté avec des représentants de l'opposition. Les évêques insistent que toute discussion pour éviter les blocages du processus électoral s'efface dans la perspective du respect de la Constitution, a déclaré l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la CENCO. Les mandats du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 s'achèvent fin décembre 2016 et la Constitution ne l'autorise pas à embriguer un autre. Monsieur Kabila a convoqué un dialogue auquel l'opposition refuse de participer, les soupçonnant de vouloir se maintenir au pouvoir.
On passe maintenant à l'Afrique de l'Ouest. L'Assemblée nationale du Mali a voté hier soir à l'unanimité un projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 31 mars 2016 à minuit, suite aux problèmes sécuritaires dans le pays. Pour une fois, l'opposition et la majorité ont soufflé dans la même direction. Modibo Dembélé a joint Modi Ndiaye, troisième vice-président de l'Assemblée nationale et membre de l'opposition parlementaire.
L'état d'urgence est une mesure exceptionnelle dont le budget est de pouvoir assurer mieux les personnes et leurs biens. La mesure doit, selon nous, faire l'objet d'une mise en œuvre très rigoureuse. Et c'est ça un peu pour nous l'élément le plus important parce que les explications que le gouvernement avait données quand le président a décrété l'état d'urgence nous ont paru un peu pas avec beaucoup de rigueur. Ce qui fait que nous avons pensé qu'il est bon qu'une fois que c'est une mesure exceptionnelle, que cette mesure doit être appliquée dans toute sa rigueur.
Est-ce que cela signifierait que vous êtes pour une fois de plus d'accord avec cette mesure gouvernementale?
Oui, nous avons donc voté la mesure gouvernementale en termes de prorogation, parce que cette prorogation revient à l'Assemblée nationale. On l'a donc prolongée hier soir. Et nous sommes d'accord parce que nous sommes conscients que l'État a des difficultés en matière de sécurité. C'est une mesure salutaire.
Modi Ndiaye, troisième vice-président de l'Assemblée nationale et membre de l'opposition parlementaire au Mali. Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore est maintenant le 9e président du pays. Il a prêté serment hier, ce qui a mis fin au régime de transition qui a suivi la chute en octobre 2014 de l'ex-président Blaise Compaoré. Dans son discours d'investiture, le nouveau président a invité tous les Burkinabés à un véritable changement de mentalité et de comportement pour réformer les institutions et moderniser l'administration pour plus de justice sociale, de démocratie et aussi de liberté. On passe à l'actualité dans le reste du monde. En Irak, après la reconquête de Ramadi, les autorités irakiennes y ont déployé des centaines de combattants sunnites, une stratégie qui devrait leur permettre de garder et de gouverner cette ville où les musulmans sunnites sont majoritaires. Le point avec Chérubin Dorsil.
Ce n'est que le début d'une opération qui s'annonce plutôt longue et difficile après la reprise de cette ville stratégique située à l'ouest de Bagdad. Le groupe État islamique a laissé derrière lui des centaines d'engins explosifs qu'il va falloir désamorcer. Et il faudra aussi convaincre la population, sévèrement réduite par la guerre, de ne pas céder à la tentation djihadiste. Le premier souci du gouvernement, c'est donc un retour éventuel de Daesh, qui occupait la capitale de la province d'Al-Anbar depuis mai dernier, avant d'en être chassé par les forces irakiennes et leurs alliés avec l'appui aérien des États-Unis. C'est dans cette perspective que 500 membres de tribus sunnites sont arrivés dans le nord de Ramadi pour contrôler les zones libérées, a indiqué le général Ismail Mahalawi, qui dirige les opérations dans la province. Ces combattants, indique l'AFP, font partie de la mobilisation populaire, une organisation paramilitaire placée sous le commandement du Premier ministre Haider al-Abadi. Monsieur Abadi a visité Ramadi hier pour féliciter ses troupes, mais il est conscient du défi. Il faut combattre le confessionnalisme violent, la mauvaise gouvernance et la corruption qui ont permis l'implantation du groupe État islamique, a-t-il fait remarquer.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, à l'approche des fêtes du Nouvel An, le maire de New York se veut rassurant et affirme que toutes les mesures de sécurité ont été prises, notamment grâce à la nouvelle unité de lutte contre le terrorisme qui compte 500 agents. On attend plus d'un million de personnes le 31 décembre à Times Square pour l'arrivée du Nouvel An. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.